Cap Radio, en direct du 70e Festival d'Avignon pour les ateliers de l'éducation artistique et culturelle.
Bonjour, nous allons commencer. Monsieur le vice-président du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, représentant de Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Madame la ministre de la Culture et de la Communication, coprésidente du Haut Conseil, mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, monsieur le directeur du Festival d'Avignon, cher Olivier Py, cher Laura Deller, mesdames et messieurs les représentants d'institutions culturelles, professionnels de la culture, professionnels des arts, mesdames et messieurs les élus, amis festivaliers, c'est un grand honneur en tant que président de l'Université d'Avignon de vous accueillir dans ce lieu qui est l'ancienne fac de sciences, et de prendre part à ce discours d'accueil sur les ateliers de la pensée du Festival d'Avignon, qui est un des éléments du partenariat étroit, qui ne cesse de se renforcer, pas plus tard qu'il y a quelques secondes, entre le Festival d'Avignon et l'Université d'Avignon, pour porter ensemble sur notre territoire et bien au-delà la culture. Très rapidement, parce que le temps nous est compté, je vais évoquer deux, trois choses qui positionnent l'Université d'Avignon dans ce combat pour la défense des arts et de la culture. D'un point de vue scientifique, hein, puisque nous avons beaucoup d'engagement en recherche, la culture comme champ de connaissances, comme objet de recherche scientifique, mais aussi en formation. Ici, vous avez peut-être vu le panneau, vous êtes maintenant dans la Villa Créative Supramuros. Supramuros pour au-delà des murs d'Avignon, les remparts bien évidemment, au-delà des murs des conservatismes, au-delà des murs des mentalités, au-delà des murs des blocages divers et variés, pour la diffusion vers toutes et tous de la culture, celle de l'université, la culture scientifique, mais la culture au sens le plus large et le plus noble du terme, bien évidemment. Nous installerons très prochainement ici des living labs, il y a déjà une expérimentation en cours, dont vous pourrez profiter, des espaces de coworking, pour que culture et numérique se rencontrent sans semence l'un l'autre, pour qu'on puisse tester des nouveaux usages, des nouvelles pratiques, mais pour qu'on puisse aussi faire se rencontrer des étudiants, des entrepreneurs, des créateurs, des scientifiques, des chercheurs, pour aller dans le cadre de French Tech Culture Arles Nîmes Avignon vers aussi l'invention de nouveaux outils numériques, applis smartphones et autres, qui permettront au plus grand nombre, nous l'espérons, hein, de faciliter leurs accès, d'interagir sur des questions artistiques et culturelles. Précise rapidement, parce que cela me fait plaisir, mais aussi parce que c'est important, qu'Emmanuel Etis, ici présent, a largement contribué avec Olivier Py et Paul Hermelin à ce que la ville d'Avignon obtienne ce label French Tech Culture, ce qui était loin d'être gagné hors métropole, mais c'est justement la culture qui nous a permis de nous différencier sur la scène nationale et le fait que ce soit à Avignon. L'Université d'Avignon est également structurée dans ses axes scientifiques, sur l'organisation de la recherche autour de deux axes, l'un étant celui de la culture, du patrimoine et des sociétés numériques, hein, ce qui répond à ce que je viens d'évoquer précédemment sur cette relation culture et numérique. Nous avons une fédération de recherche qui regroupe plusieurs laboratoires qui s'appelle Agorantic, Agora, place publique, lieu de débat, Antique, en TIC, technologie de l'information et de la communication, qui œuvre également dans ce sens en insistant sur le rapprochement entre sciences sociales et numériques, entre culture et numérique, avec des projets en cours, dont un financé par l'Agence nationale de la recherche, qu'on appelle GAFES, pour Galerie des festivals, avec le Festival d'Avignon, les Transmusicales de Rennes, le Festival de Cannes pour partenaires. Il s'agit de travailler sur les traces laissées par les festivaliers, les festivals sur Internet, les flux Twitter, comment on peut profiler des publics, des pratiques, des comportements, leurs évolutions, constituer des observatoires, etc. Voilà, c'était la version très rapide. Je rentre maintenant vraiment dans le vif du sujet en ce qui concerne la formation, donc l'éducation artistique et culturelle. L'Université d'Avignon a une très ancienne pratique, hein, qui se distingue largement sur le plan national. Et là, je le dis vraiment sans gêne, nous avons le meilleur modèle national, si on le rapporte à la modestie, hein, de notre établissement en termes de taille. Damien Malinas, ici présent, vice-président culture de l'Université d'Avignon, a créé des enseignements d'ouverture pour tous les étudiants de l'université, de la première année jusqu'à la fin du master, de façon veillerons à ce que chacun ait accès à des enseignements, des petits blocs d'une vingtaine d'heures sur la culture. Nous avons une offre d'une quarantaine de propositions. Alors, quelques exemples pour poser un peu les questions. Théâtre européen, improvisation théâtrale, cinéma, photo, danse, culture et civilisation française, provençale, islamique, japonaise, œnologie, gastronomie, j'ai parlé de culture au sens le plus large, engagement associatif autour de projets culturels, des ateliers également, arts visuels, musique, chorale, arts et sciences, arts et médias, culture et territoire, jeux de l'esprit, et j'en passe. Cette année, nous avons créé, Damien Malinas a créé, l'unité d'enseignement, éducation artistique et culturelle, qui aide les étudiants à construire leur propre parcours en termes d'éducation artistique et culturelle. Ils deviennent acteurs de cet apprentissage. Ce projet a été soutenu par le Patch Culture et ses partenaires. Le Patch Culture, c'est une carte culture qui donne accès à des événements, à des représentations pour les étudiants. Pour la modeste somme de 5 euros, dans 50 institutions, théâtre, scène, cinéma du territoire et un petit peu au-delà. Nous avons également créé l'an dernier un diplôme d'université, acteur social en éducation artistique et culturelle, en formation continue pour des publics de tous les âges. Et nous avions une moyenne aux environs de 40 ans, des personnes de 22 à 55 ans qui se sont joints à nous avec 4 ou 5 nationalités représentées. Nous sommes inspirés de la pédagogie Steiner-Waldorf, qui est réputée pour l'omniprésence de l'art de l'accompagnement des élèves tout au long des parcours, pour accompagner différents publics du plus jeune âge jusqu'à la maison de la retraite, dans le cadre des rythmes scolaires, dans le cadre du périscolaire et dans le cadre, bien évidemment, des interventions dans les quartiers, etc. Alors, pourquoi faire tout ça? C'est là qu'on va rentrer un peu dans le positionnement particulier de l'Université d'Avignon en faveur des arts et de la culture, parce que nous sommes, pas tous bien évidemment, et c'est un combat quotidien que de porter ça dans une institution telle que la nôtre, un véritable combat, nous sommes un peu en rupture avec les excès académiques. Nous pensons que les comportements monomaniaques n'aident pas trop à comprendre un monde de plus en plus complexe et que la pluridisciplinarité, l'ouverture des jeunes esprits, tant sur la culture académique, scientifique, mais que la culture, au sens encore une fois le plus large, est absolument nécessaire pour plusieurs raisons. Pendant les études, les jeunes se construisent, on récupère des jeunes adultes. C'est un processus assez long, 3 ans, 5 ans, parfois plus. Et on croit que tout doit tourner autour du diplôme. Sauf que le diplôme, c'est qu'une petite partie. Tout ce qui compte, à notre avis, c'est la personne qui porte le diplôme face à un employeur. Et c'est comment cette personne va se construire dans sa personnalité morale, intellectuelle, intérieure, dans sa personnalité artistique et culturelle, pour ensuite s'intégrer dans la vie, devenir citoyen, éclairé de préférence, citoyen du vaste monde aujourd'hui à l'heure de la mondialisation. C'est pour ça que nous donnons la possibilité à nos étudiants d'avoir jusqu'à 6 enseignements par an, donc ça fait jusqu'à 120 heures, peu le font, mais c'est techniquement possible, jusqu'à 120 heures autour de pratiques et d'expériences artistiques et culturelles. Et en plus, on reconnaît ça dans les diplômes et on est vraiment parmi les très rares universités à le faire. Si on est un petit peu plus en profondeur, nous souhaitons aussi, nous pensons que ces apprentissages, ces expériences, ces confrontations par la pratique, que par la réception d'œuvres, de créations, aide nos jeunes publics à construire leur personnalité émotionnelle et puis aussi à guérir ces âmes meurtries, puisque nous en avons quand même de plus en plus, et nous aurions tort de sous-estimer ces meurtrissures, parce que nous pensons que ça fera la différence plus tard aussi dans cette construction de la personne. Alors, par cette confrontation aux arts, cette immersion dans la culture, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas nouveau. Nous souhaitons contribuer à la formation des générations futures pour que les actes soient mieux contrôlés, mais les pensées aussi, parce que je crois que tous les jours, nous sommes abreuvés de faits qui illustrent à quel point les pensées peuvent devenir toxiques, surtout quand elles sont gouvernées par d'autres, et à quel point ces pensées toxiques peuvent devenir très rapidement des actes discriminants, voire profondément destructeurs. Nous avons coutume de dire en Vaucluse, à l'Université d'Avignon, que nous sommes un peu des chasseurs de démons, hein, parce que le ventre de la bête immonde est encore bien fécond par ici, que de nouvelles ombres surgissent ces temps-ci. Hein, je crois que nous sommes largement d'accord là-dessus. Pensons que cela passe d'abord, hein, lutter contre ces démons passe d'abord par le combat contre les démons intérieurs, sauf qu'on pourrait difficilement envoyer toute la population en psychanalyse, pas garanti que ce soit très efficace à l'arrivée. Hein, nous pensons du coup que la pratique des arts et de la culture reste certainement le meilleur rempart contre la folie des hommes, contre la folie du monde, en cela qu'elles permettent de nous y confronter, d'en faire l'expérience, mais indirectement, hein, grâce aux artistes qui nous offrent leur création, grâce à la confrontation de soi-même au processus de création par les pratiques et les expériences, avec tout ce que cela implique, hein, de confrontation à soi-même et aux autres. Car ne vous y trompez pas, hein, jusqu'à présent j'ai eu un propos assez centré sur la personne, mais c'est bien pour l'aider à devenir capable de vivre avec les autres, c'est bien pour lui donner la faculté d'empathie, d'identification à l'autre, dans le respect de sa propre individualité, parce que si elle est bien posée, ça permettra aussi la compréhension de l'autre, l'acceptation de l'autre, parce qu'il n'y aura plus ni peur, ni compétition, ni rejet. Et vous savez qu'à l'issue du procès de Nuremberg, le psychanalyste américain qui avait suivi les 22 condamnés principaux avait conclu que ce qui manquait à ces personnes-là et qui avait précipité tout le reste, c'était bien l'empathie. Je vous remercie, monsieur le vice-président. La parole est à vous.
Merci, monsieur le président de l'université, pour ces mots qui introduisent bien la manière dont nous avions pensé cette journée il y a très récemment avec tous les membres du Haut Conseil. Sachez que le mot empathie, je vois Frédéric Dumas, est au cœur des questions du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle que j'ai l'honneur de vice-présider au nom des ministres. Je remercie le secrétaire général Christopher Miles qui est face à nous aujourd'hui d'être présent ici, la rectrice Marie-Danielle Campion que j'ai vue aussi. Je la salue. Merci à tous les membres du Haut Conseil d'être présents ici. Merci à tous les intervenants qui viennent cet après-midi nous apporter leur éclairage. On a décidé de faire 3 tables rondes aujourd'hui. Une table ronde sur des approches territorialisées. On a insisté sur ce mot territorialisé car l'éducation artistique et culturelle aujourd'hui, son défi est d'être absolument territorialisée. Le président de l'université l'a bien dit, ce sont des expériences qui aussi se définissent en fonction d'un certain nombre de territoires, même si ce sont des politiques, nous souhaitons être des politiques nationales. Elles se construisent sur les territoires et on a demandé à un certain nombre d'acteurs de venir de témoigner de leur ambition, de leur problématique, de leurs difficultés aussi quelquefois à mettre en place les choses, mais aussi de leur inventivité. Je crois que on le voit à chaque séance du Haut Conseil, à chaque fois qu'on commence à réfléchir à ces questions, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de désir, beaucoup de débats vifs quelquefois sur ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, ce que nous devons transmettre. Je le redirai demain, effectivement, on s'inspire souvent de René Char qui disait que la culture était un héritage sans testament et c'est à nous de le construire en permanence, ce testament, c'est tout à fait essentiel de le faire. Je remercie tous les intervenants qui vont intervenir. Je remercie Jean-Louis Fabiani d'être présent. J'ai eu la chance avec lui de mener depuis de très longues années avec Damien Malinas des enquêtes sur les publics du Festival d'Avignon. Pourquoi le Festival d'Avignon ? Bien évidemment parce que c'est un lieu fondateur à la fois de l'éducation populaire, qui s'appelait éducation populaire, mais qui a vraiment tout à voir avec l'éducation culturelle et artistique, qui s'est construite et bâtie ici au sens où on imaginait que tous les citoyens pouvaient effectivement acquérir dans un lieu patrimonial, autour des textes de théâtre, une véritable réflexion pour se construire et se reconstruire autour des questions culturelles et penser le monde contemporain. C'était cette définition. La deuxième table ronde porte sur l'éducation, de l'éducation populaire à l'éducation artistique aujourd'hui, avec des institutions partenaires qui travaillent, puisque l'éducation artistique et culturelle, bien évidemment, ça se fait par la volonté dans les écoles, dans les institutions culturelles, mais aussi avec des partenaires qui sont présents et que je remercie. Ils nous apporteront leurs réflexions. Et nous conclurons sur l'engagement des pouvoirs publics, qui là, eux aussi, ont une action spécifique à redéfinir sans cesse pour inscrire les questions d'éducation culturelle et artistique dans notre 21e siècle. Je tiens à remercier tous les membres du ministère de la Culture, tous les membres du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui contribuent à chaque Haut Conseil à fabriquer notre réflexion, nous accompagner, fabriquer les documents d'aujourd'hui, demain. les ministres présentera au ministre, le Haut Conseil présentera une charte, qui est une charte de l'éducation artistique et culturelle, en 10 engagements. Ça nous semblait important de pouvoir mettre au point cette charte. Elle nous a fait beaucoup plaisir dans notre dernière séance. On l'avait votée à l'unanimité pour dire voilà ce qu'on a envie de vous présenter. Ce sera présenté demain. Aujourd'hui, c'est vraiment un éclairage sur ces réflexions qui ont contribué à alimenter cette charte aussi. Je tiens à remercier le Festival d'Avignon et toutes ses équipes, notamment Véronique Matignon, Virginie de Creuset et bien évidemment Olivier Py, Paul Rondin, d'avoir accepté qu'on soit ici installé sur les ateliers de la pensée. Je remercie l'Académie de Nice aussi qui m'a beaucoup aidé pour la présentation. Je remercie notre radio, Cap Radio, qui va enregistrer ici tout ce que nous allons dire également pour pouvoir le retransmettre sur France Culture Plus également. Je remercie Laura Adler d'être à mes côtés aujourd'hui pour accompagner sur les intervenants qui sont là pour pouvoir entraîner leurs paroles. Laura Adler est sans doute une des personnes qui, à titre personnel, m'a beaucoup inspiré sur ce que veut dire l'éducation artistique et culturelle. Laure, depuis que je te connais, depuis que je t'écoute à la radio, tu es sans doute l'une des personnalités qui m'a donné le plus envie de partager, d'apprendre sans cesse, de jouer avec les références culturelles. Vous savez, c'est compliqué en France, quelquefois, la culture, quand on se trompe dans une référence, quand on dit quelque chose, tout de suite, on vous tombe dessus et on vient délégitimer en général l'ensemble de votre discours. Je crois qu'il faut apprendre à jouer avec les références parce que, comme l'a dit très justement le président de l'université, je pense que c'est toutes ces références qui jouent entre elles, qui reconstruisent des mémoires qui rêvent quelquefois, et tant mieux. Tant que les choses fonctionnent ainsi, on peut dire qu'on est effectivement des humains structurés. Donc merci alors de nous accompagner aujourd'hui et pour tout ce que tu fais depuis toujours. Et merci donc à Olivier Py, à qui je vais passer la parole, parce qu'on a souhaité vraiment qu'il nous ouvre ces rencontres pour nous faire partager la manière dont il voit l'éducation culturelle et artistique ici. Je sais que le festival joue un rôle tout à fait essentiel avec son guide cette année du jeune spectateur, mais la parole est à vous, cher directeur du Festival d'Avignon.
Merci beaucoup. Merci, messieurs les présidents, et successivement, d'avoir créé avec nous ce lieu absolument exceptionnel que vous avez appris à connaître et à aimer. Je félicite les équipes techniques qui ont essayé cette année de l'aménager, comme vous voyez, avec un vélum sombre qui va un peu nous protéger de la chaleur et ses brumisateurs qui nous donnent un petit espoir de fraîcheur. J'adore ce lieu. Vous aussi, vous avez été très nombreux, plus de 20 000 chaque année, à chaque édition, à y venir. Je suis très heureux, justement, qu'on ouvre cette année le site Pasteur avec ce thème-là. Les liens entre l'éducation et la culture ont toujours été centraux, en tout cas dans mon histoire. C'est vrai que le festival avait une sorte de petit déficit à ce niveau-là, pour une raison très simple, qui est une raison de calendrier, c'est qu'en général, le festival commence quand l'école s'arrête. Donc ça va nous obliger à décloisonner et à penser que la culture, c'est l'éducation qui continue, l'éducation, c'est la culture qui commence, et en tout cas, ne plus séparer ces deux mondes. Je l'ai dit jusqu'à être absolument ennuyeux, mais ce n'est pas grave, je veux bien le dire encore un millier de fois, l'avenir de la France tient à la culture et à l'éducation, l'avenir de la politique tient au lien que nous arrivons à créer entre la culture et l'éducation. On ne le dira jamais assez, on ne sera jamais assez lassé, nous qui appartenons au monde de la culture et de l'éducation, d'être des sortes de pots de fleurs qu'on sort pour les élections et qu'on remet dans leur boîte quand les élections sont finies. Heureusement, il y a presque toujours des élections en France, presque chaque année, donc on est encore un petit peu présent dans les débats. Mes camarades du festival m'ont fait un joli petit pense-bête pour vous rappeler tout ce que nous faisons dans ce sens-là, qui a été novateur, extrêmement fructueux, donc je vais le faire. Je voudrais simplement rappeler que, en ce qui me concerne, cette conviction... Qu'est-ce qu'une conviction et comment est une conviction? C'est une question philosophique, mais là, pour le coup, je crois que cette conviction que l'éducation et la culture doivent se rapprocher, pour moi, s'enracine dans un vécu. Et je suis toujours heureux ici de citer Mademoiselle Barrel, ma professeure de français de 4e, qui a fait venir dans mon, on disait un CES à l'époque, pas particulièrement luxueux, une troupe qui était la troupe des 8 saveurs de Lyon. Si je ne les avais pas rencontrés, si je n'avais pas fait avec eux cet extraordinaire atelier. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui devant vous. Et en tout cas, je ne pourrais pas témoigner sans s'y lier et sans avoir peur d'être taxé de lyrisme, même si, que oui, l'éducation culturelle sauve des existences. Peut-être les médecins sauvent des vies, mais je crois que nous sauvons des existences. Et ça, j'en ai la preuve absolument tous les jours. Donc, je voudrais remercier aussi ceux qui, dans le cadre de l'éducation nationale, depuis toutes ces années, se sont battus, quelquefois avec des directions qui n'étaient pas tout à fait de leur côté, quelquefois seuls, quelquefois abandonnés, dans ce combat tout à fait légitime pour que l'école ne soit pas simplement de la formation professionnelle, n'est-ce pas, mais que ce soit un petit peu de formation de soi. Je crois que l'éducation artistique, c'est d'abord ça. Tout le monde n'a pas vocation à devenir un metteur en scène, un auteur, un comédien, mais tout le monde a vocation à être un homme libre et à être soi. Je crois que ce que nous apportons avant tout à l'adolescent, à l'enfant, c'est l'idée que la matière qu'il étudie dans ce temps privilégié de l'école qui est consacré à l'art et à la culture, que la matière qu'il étudie, c'est lui-même. Et je crois que c'est ce que j'ai compris, bien sûr, sans pouvoir le formuler comme ça, en classe de quatrième. C'est peut-être pour ça que j'ai connu à ce moment-là une jouissance qui était bien différente de celle que pouvaient me donner les cours de français, par exemple. Oui, parce que j'avais beaucoup de jouissance à l'école. Moi, j'étais heureux à l'école. J'aimais travailler. J'aimais aller à l'école. Mais il y a eu cette chose-là vraiment magnifique. Puisque Emmanuel l'a montré, je vais le faire aussi. Voilà un objet dont nous sommes extrêmement fiers. C'est le guide du jeune spectateur. Alors, j'ai eu tout à l'heure le bonheur de l'offrir à quatre enfants qui déjeunaient à côté de moi et de voir qu'il fonctionnait assez bien. Je félicite vraiment toutes les équipes, dont Virginie de Crozet, pour la réalisation de cet objet. Le guide du spectateur, pour les adultes, c'est un programme du festival, mais au jour le jour. On a pensé qu'on pouvait le faire aussi pour les enfants et aussi pour les familles. Là-dedans, on trouve au jour le jour quoi faire et où emmener les enfants, mais on trouve aussi l'historique du festival, c'est vraiment important, et puis des jeux, des mots croisés, des coloriages. Tout à l'heure, comme j'en avais quatre, j'en avais même un de plus, et comme j'avais le plaisir de déjeuner avec Frank Castorf, excusez-moi, le très grand metteur en scène allemand, je lui en ai offert un, et il a passé pratiquement 10 minutes à chercher les différences, les 7 différences, il ne les a pas toutes trouvées. Mais j'ai vu que cet objet-là, voilà, pouvait ravir à la fois les grands et les petits. L'année dernière, nous avons accueilli 500 enfants de 6 à 10 ans, 300 collégiens, 800 apprentis et lycéens, et nous avons travaillé avec à peu près 120 établissements scolaires. Bon, pour une deuxième année de festival, je pense que c'était déjà pas si mal. Nous avons accueilli, notamment dans la cour du Palais des Papes, 1 millier d'enfants. Je les ai moi-même accueillis. Et d'ailleurs, grâce à un petit robot French Tech absolument formidable. On est vraiment, vraiment très, très fiers de ça. Vous savez que chaque année, il y a une programmation jeune public au Pénitent Blanc. On recommence cette année avec 3 spectacles, dont un d'ailleurs qui est une compagnie que nous avions découvert dans le off l'année dernière, j'ai toujours plaisir à le dire. C'est doublé d'une programmation jeune public avec les Utopias, d'un atelier au cinéma d'animation, ça c'est très très amusant, si vous avez des petits, il faut vraiment les emmener, d'une visite gratuite pour les familles sur l'histoire du festival, ça aussi c'est beau, c'est très ludique, les ateliers de la pensée bien sûr, que nous faisons avec le Bondi Blog, l'exposition Jolie le Bigot, qui est assez discrète, mais qui vraiment peut fasciner les enfants, Espace de Aurélien Bory, qui est un spectacle tout public, mais vraiment qui peut séduire des enfants, et l'éditaton avec Wikimedia. Chaque année, nous menons un partenariat important avec le lycée agricole et viticole d'Orange, avec les lycéens en Avignon et bien sûr avec les CMEA, mais un jumelage encore plus serré avec le collège Anselme Mathieu, et je salue Monsieur Briard, et je lui laisse toute la responsabilité, parce que c'est lui qui est venu me voir un jour en me disant « et si on faisait quelque chose ?» C'est vrai qu'il y a peu de principaux qui ont cette audace, et je l'en remercie, et je suis plein d'admiration pour aussi son équipe qui était très très militante et qui rêvait de faire quelque chose. Voilà, on a vraiment fait des très très belles choses ensemble. L'année prochaine, dans le cadre des ARE, on reprendra le spectacle Stéréoptique qui a été un immense succès l'année dernière. Et on le jouera bien sûr à la Fabrica. C'est le rôle de la Fabrica d'accueillir des spectacles, d'accueillir des jeunes, d'accueillir des enfants. Et nous toucherons peut-être 2500 enfants avec ce spectacle-là au mois de septembre. Très important aussi, un projet dont on est très très fiers, c'est cette Web TV, je crois qu'ils sont quelque part par là-bas, je les salue. C'est une Web TV qui touche 80 jeunes et qui est faite par, je crois, plus d'une cinquantaine de jeunes pendant le festival. Cette Web TV sert à la fois de média et d'objet en soi, et elle met chaque jour en ligne 5 sujets. J'ai pu voir certains de ces sujets qui n'ont absolument rien à envier au journalisme professionnel. C'est important parce que je voulais rappeler que le théâtre, ce ne sont pas que les métiers d'acteur et de metteur en scène, mais ce sont beaucoup de métiers, des métiers artisanaux, et ça peut aller de la coiffure au son, à la lumière, à la médiation sociale, à la médiation en général, à tous les métiers techniques. C'est vraiment important parce que je crois que là, on crée des vocations, et ça a d'ailleurs déjà été le cas, puisque cette Web TV est en route depuis 3 ans. Je crois qu'il y a déjà des enfants qui ont trouvé là une vocation, et pas forcément celle de devenir un metteur en scène, mais peut-être de travailler dans le monde du journalisme ou de la technique. On en est vraiment extrêmement fiers. Ce sont des projets de très très grande beauté et qui font vraiment sens pour notre action. On fait toujours avec l'université, et c'est extrêmement important, l'étude des publics. Alors ça, j'y tiens absolument. Vraiment, je vous remercie d'avoir initié ça et de le continuer, parce que pour nous, c'est un outil considérable. On sort des fantasmes, et grâce à cette étude, on peut répondre directement sur, par exemple, l'âge des spectateurs au Festival d'Avignon, question qu'on me pose toujours. Donc, en moyenne, ils ont 48 ans. Ce qui ne veut rien dire, parce que personne n'a jamais 48 ans au Festival d'Avignon. Cette année, il y a encore, bien sûr, des spectacles pour les enfants et des spectacles faits avec les enfants. Je cite le spectacle de Thierry Tionyang, qui s'appelle « Au cœur », qui est une véritable merveille et qui a été fait tout au long de l'année avec 13 enfants. L'année dernière, la République de Platon avait convoqué beaucoup d'amateurs, dont des jeunes et des moins jeunes. Cette année, Le ciel, la nuit et la pierre glorieuse, qui, comme vous le savez, est un spectacle historique sur le festival, a fait un atelier d'écriture et a posé cette question à des jeunes. Comment voyez-vous le festival dans 50 ans ou dans 70 ans? C'est pas que gay, soit dit en passant. Voilà, toutes ces actions-là, on y tient. Elles sont vraiment le centre du festival, elles sont le sens du festival. Le festival n'est pas qu'une liste de spectacles, même s'il y a cette année les 50 plus beaux spectacles de l'histoire du théâtre. Il y a aussi ce lieu qui fait vraiment le sens même de ce que nous voulons, à savoir un festival qui nous donne de l'espoir, qui nous apprend la démocratie, un festival qui est une utopie, qui est déjà réalisée quand je vous vois tous réunis sous ce brumisateur. Merci d'être là. Excusez-moi si je vous quitte et si je cours, mais j'ai 2-3 choses à faire.
Merci beaucoup, Olivier. Avant de courir, d'abord, je voulais aussi te remercier parce que tu as cette faculté des grands directeurs aussi, que de se mettre en relation directe avec ces publics. Cette année, en tant que recteur, je t'avais demandé de rencontrer un lycéen et d'échanger avec lui. Je suis content parce qu'il est là cette année. Tu as eu quelques échanges aujourd'hui, donc tu as eu quelques échanges avec lui. Et je te remercie de ces échanges, parce qu'au bout de quelques échanges, je lui dis ça se passe bien, ces échanges avec Olivier Pic. Puis oui, je comprends, je sais ce que c'est qu'un artiste maintenant. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il sous-entendait par cela, mais je crois qu'il comprend très bien, lui.
Merci Facebook.
Voilà. Le principe des tables rondes, c'est que chacun vient de faire une présentation qui n'excède pas 5 minutes, parce qu'on a voulu vraiment avoir des témoignages. À la fin de chaque table ronde, la première, Jean-Louis Fabiani, fera une conclusion récapitulative. La deuxième, ce sera Alain Kerlan. Je laisse la parole à Laure Adler pour appeler les différents intervenants de la première table ronde.
Donc, j'appelle... j'appelle Irina Brook, que je vois devant moi. Je la voyais tout à l'heure. Ah, voilà, elle a changé de place. Irina Brook... faut-il le rappeler, directrice du Théâtre National de Nice, Béatrice Massé, qui est devant moi, co-directrice des Transmusicales donc de Rennes, Gérard Camille, président de Cannes Cinéma, Bruno Vermet-Gauchy, enseignant, impliqué dans Cinécole, Damien Malinas, que j'ai vu aussi tout à l'heure, qui est là, Damien Malinas, enseignant-chercheur, laboratoire culture et communication, Université d'Avignon, et inventeur du patch culture dont il sera question, et qui est quelque chose aussi de très important pour cette ville toute l'année, pas seulement pendant le festival, parce qu'il faut quand même dire qu'il se passe beaucoup plus de choses en dehors du festival que pendant le festival. Nolwenn Herry et Solène Ledu, du domaine de la Roche-Jagut, Côte d'Armor. Florent Briard, principal du collège Anselme Mathieu, qu'on a vu tout à l'heure, oui, qui nous rejoint. Julien Neutre, qui est là. Directeur de la création des territoires et des publics du CNC. Et Jean-Louis Fabiani, qui va nous rejoindre et qui va faire la conclusion. Est-ce qu'il vous reste de la place, Jean-Louis ? Bon, bah écoutez, on va rajouter une chaise. Deux. Alors, vous avez compris les règles du jeu. Emmanuel, tout à l'heure, vous a dit que ces journées duraient 2 jours. Donc, j'espère que vous serez aussi nombreux, malgré la chaleur, demain après-midi pour un versant à la fois plus politique et plus d'engagement concret par rapport à cette charte qui, je crois, est d'une importance considérable. Et cet après-midi va se diviser en 3 parties, cette première table ronde, une seconde et une conclusion. Alors comme vous êtes très nombreux, vous avez des choses absolument passionnantes à nous dire, moi je suis là pour faire la maîtresse d'école, même s'il y a un principal dans l'assistance. J'ai ma règle et je taperai sur le bout des doigts. Je n'ai pas mon chronomètre, mais... j'ai une perception du temps qui me permet de penser qu'au bout de 4 minutes 30, le gong retentira. Donc, Irina, à vous, Irina. Oh, la vie est gaie là-bas.
C'est cruel de commencer comme ça avec le chronomètre. La vie est gaie là-bas. Mais ça prendra plus que 5 minutes.
Donc ben oui, justement, c'est pour ça. Rentrons dans le vif du sujet. Il paraît que ce n'est pas si facile que ça.
À Nice, ouais. Ce n'est pas si facile que ça, mais c'est très excitant. On a un bon challenge. On a beaucoup de choses à faire et on le fait avec un grand enthousiasme et plaisir.
Dans Il la en faut.
Ouais. J'ai mon collègue Renato Giuliani qui est ici, qui fait énormément d'actions culturelles dans l'éducation, Renato, et Agnès Mercier qui travaille avec moi au Théâtre de Nice. Donc j'ai une partie de mon équipe. Laure, je démarre, ça oui, y est, oui. Je parle pendant 5 minutes. Ok. Bon.
Enfin, t'es pas obligé. Hein. Tu peux dire moins que 5 minutes.
Donc, mais je sais pas où commencer. Quand je suis arrivée au Théâtre de Nice, il y a 2 ans et demi, et tout ça a été entièrement nouveau pour moi parce qu'avant, j'étais que metteur en scène. Et donc, en arrivant à Nice, je pense que la première chose par rapport à l'éducation artistique, qui était la plus frappante, touchante et inquiétante, c'était à quel point il y avait un désir et une envie de tous les côtés pour du théâtre. Et ça, franchement, c'est très encourageant, parce que moi, je suis une croyante absolue dans le pouvoir du théâtre. Je suis dévouée totalement et j'ai la foi absolue, comme disait Olivier, que ça peut vraiment changer les vies. Et donc, de voir à quel point il y a une faim pour ça aujourd'hui dans le monde de toutes les autres choses qui font compétition technologique, c'est très, très réjouissant. Le mauvais côté, c'est qu'on n'a pas les moyens et les hommes et les femmes pour aller vers la demande, parce que la demande était sans fin. Il y a eu des innombrables demandes d'ateliers, d'interventions, de théâtre, de partout. Et c'est formidable, mais il n'y a pas les moyens pour le faire, donc c'est très frustrant. Donc en arrivant, je suis venue avec 2 acteurs de Paris, dont Renato et Ovnatan Avedikian, et ils s'appelaient les éclaireurs, c'était leur mission, c'était, j'ai appris après que c'était des scouts, mais je ne savais pas en leur donnant le nom que c'était des grands scouts, qu'ils devaient aller vraiment amener le théâtre partout où il n'y en avait pas. Donc c'était leur mission dans ces 2 premières années qu'ils ont fait vaillamment. Et à la fin, au milieu de la 2e année, je me suis rendu compte que ça ne suffisait absolument pas et qu'il fallait 10 fois plus de monde si on voulait faire notre mission. Donc j'ai commencé à former une mini-compagnie de jeunes éclaireurs qui étaient tous niçois pour qu'ils soient sous la main, Donc après, dans les choses moins agréables, parce qu'on doit dire la vérité ici, je suppose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structure pour ça, il n'y a pas les moyens, on ne m'a pas du tout encouragé de le faire. On m'a dit, tu ne peux pas commencer une compagnie comme ça à Nice de jeunes acteurs culturels, ce n'est pas possible, il n'y a rien qui soutient cette chose. Et donc, j'ai dit, ben, tant pis, alors je le fais quand même, parce que sinon, on ne peut pas répondre à notre demande. Donc, je l'ai fait quand même. Et on a un petit groupe d'une dizaine de jeunes acteurs. Le but, ce n'était pas que ce soit les meilleurs acteurs du monde, mais il y en a qui sont très bons, mais c'est que c'était des personnes qui voulaient aller à la rencontre des gens et qui voulaient amener le théâtre vraiment comme un message de quelque chose qui apporte tout le bien qu'on sait peut donner le théâtre. Donc on a commencé avec eux, on a créé les éclaireurs et avec ce groupe, on est allé de 10 à 2. Dans la version à 2, en binôme, ils sont allés dans énormément de collèges et de lycées. Je ne sais pas, il y a des chiffres, Agnès, combien des 60 établissements. Donc des centaines d'enfants les ont vus. En plus, avec un texte très, très extraordinaire pour les jeunes par un grand auteur, Stefano Massini, qui est un des plus grands auteurs italiens, européens de ce moment, qui dirige le Piccolo Théâtre de Milan. Et il a écrit un texte spécial pour les jeunes, 30 minutes, qui s'appelle Point d'interrogation. C'est 14 questions sur ce que sera le monde futur, partant de vérités scientifiques et passant par quelque chose de très ludique et très drôle. Donc tous les jeunes écoutent, ils sont accrochés, ils rigolent et hurlent de rire. Et à la fin, fou, c'est la claque, parce que tout à coup, ils se demandent qu'est-ce que nous allons devenir ? Qu'est-ce qui va vraiment devenir notre monde dans lequel nous vivons ? Et ce qui est génial avec ce point d'interrogation, c'est que tout à coup, ces jeunes qui ne se demandaient peut-être pas autant de choses que ça, se demandent 1000 questions et nous demandent 1000 questions. Et donc, il y a une 30 minutes de spectacle et une heure au moins d'échange qui pourrait durer des heures et des heures. Et à partir de ça, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a des jeunes qui veulent former des petits mini-groupes d'éclaireurs, d'acteurs. Et donc on voit que c'est quelque chose qui se propage et le problème c'est qu'on a vraiment besoin de monde. Moi j'aurais besoin de pouvoir faire un groupe d'éclaireurs dans toutes les villes de France, ça serait mon but ultime et qu'à partir de là ils pourraient faire ce texte point d'interrogation qui pour moi est un trésor parce que c'est rare d'avoir un texte de si haut niveau qui est accessible à tous et qui pose des questions si intelligentes et je pense que c'est quelque chose qui aide vraiment la pensée aujourd'hui dans ce monde où le théâtre est, comme dit Olivier, essentiel. Et ce n'est pas juste le fait d'aller au théâtre qui est essentiel, c'est le fait de faire du théâtre. Je pense que le fait d'aller voir du Molière, du Shakespeare, c'est 30%. Le reste, c'est le fait de jouer, d'être mieux avec soi-même et mieux avec les autres, d'improviser. Mais pour ça, il faut aussi les moyens pour que les établissements aient des personnes qui leur montrent comment faire, parce que beaucoup des professeurs ne savent pas comment jouer avec plaisir avec des enfants. Et c'est tout un système qui a besoin d'être propagé. Donc, je prends ça très au sérieux, le théâtre par le plaisir et par le jeu, parce que je vois que ça fait un bien extraordinaire aux gens. J'ai des groupes de professeurs, 30 professeurs qui viennent en stage, et on travaille pendant des longues journées. Après, ils me disent, 6 mois plus tard, qu'ils ont ramené des choses dans leur classe, qu'ils font des choses qui viennent de ces journées de travail avec les élèves. Et tout se propage, et on voit que ça vaut le coup. Voilà. Je pense que ça devait faire 5 minutes.
Ah oui, mais c'est bien de nous laisser sur la fin. Donc, si je comprends bien, votre intervention consiste à dire que exactement comme une fleur qui ne serait pas assez arrosée, il suffit effectivement de pouvoir faire des propositions pour qu'elles soient tout de suite suivies d'un désir de la part des publics, de tous les publics, qu'ils soient différents socialement, de manière générationnelle aussi, mais que ce sont les moyens qui manquent.
Le désir est partout. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. On a joué les éclaireurs partout, dans les quartiers difficiles, dans les parcs chics, partout. Et on voit que les gens viennent comme vraiment attirés vers le théâtre d'une façon qui reste comme si rien n'avait changé depuis le début des temps.
Alors, est-ce qu'il faut que ça soit des institutions qui soient guides du désir qui s'exprime ou est-ce que ce désir qui est là, est-ce qu'il peut s'exaucer par ce qu'on appelle toutes les pratiques amateurs ?
Alors ça, c'est juste, si je peux juste dire une petite chose un peu critique, si j'ai le droit, c'est que je pense que tout est un peu trop institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui existent, que je découvre, parce qu'avant, je faisais du théâtre, j'étais artiste, maintenant, je rentre dans le système, qui vraiment casse beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que j'ai découvert que pour envoyer quelqu'un dans un établissement scolaire, un collège-lycée, il faut que cette personne soit repérée et que ce soit une compagnie repérée, soutenue par la DRAC, etc. Mais le fait qu'on soit une bonne compagnie repérée qui faisons un formidable spectacle de coltesse ne veut pas dire que c'est la personne qui a la possibilité d'agir avec des jeunes de 14 ans avec tout son cœur nécessairement. Pour moi, je ne vois pas la relation entre faire du très bon théâtre, qui devrait être vu à un certain niveau, et être quelqu'un qui peut aller faire des interventions. Je pense que c'est deux choses qui peuvent être pareilles et qui peuvent être différentes. Donc je trouve que c'est très dommage. Je viens quand même aussi... j'ai passé 3 ans aux États-Unis. Je suis maintenant française officiellement, donc je peux parler de l'Amérique sans être vue comme partisane. Mais je trouvais que là-bas, par exemple, le travail avec les jeunes... on voit que c'est des jeunes qui travaillent avec les jeunes. Il y a des ados, des jeunes de 20 ans, 22, 24 ans. Et là, les jeunes de 12, 13, 14 ans les adorent et ils ont une possibilité d'être très chaleureux, très vifs dans la façon de travailler. Et ce n'est pas parce que c'est un formidable acteur ou quelqu'un d'une top compagnie, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime travailler avec les jeunes et qui a cette énergie positive. Et c'est ce côté positif qui est le plus important pour moi dans le théâtre avec les jeunes. C'est ça, c'est le fait de devoir donner envie. Ce n'est pas d'être un brillant praticien de théâtre et d'avoir une bonne réputation et de parler intelligemment du monde du théâtre. C'est de juste tout de suite dire mettez-vous debout, on va faire un exercice et que tout le monde se dise bah, c'est pour nous tous et c'est génial. Et là, je trouve qu'il y a un peu une sorte d'élitisme qui enlève la possibilité de mettre nécessairement les bonnes personnes en action.
Ben, merci beaucoup, Irina. On reviendra sur toutes ces questions importantes que tu as soulevées. Et je laisse la parole à Béatrice. Devant un micro.
Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, en introduction, je vais vous préciser que notre projet artistique est basé sur l'attrait pour l'inconnu, dont nous pensons qu'il vaut la peine d'être exploré. Et nous programmons aux trans des artistes peu, voire pas connus du tout. Et nous nous définissons en fait comme un avant-poste d'observation de la création musicale au niveau mondial et en musique actuelle, dans cet interstice en fait entre l'émergence et puis la reconnaissance. Voilà, ceci explique aussi un peu cela, et ceci explique aussi un peu le jeu de Louis. Donc je vais vous présenter deux actions du jeu de Louis. Donc le jeu de Louis, c'est notre programme éducation artistique et culturelle depuis 2004. Nous y proposons une dizaine d'actions. Ce sont en fait des outils dont le public peut se saisir pour travailler sans en avoir l'air, ça reste un jeu quand même, leur rapport à la programmation et à la musique de manière générale. L'idée en fait sous-jacente, c'est de fournir au public tous les repères dont il a besoin pour faire leur choix, par plaisir, mais de préférence en connaissance de cause quand même, et ainsi d'exercer leur curiosité au-delà du concert pour forger un rapport à la musique en fait qui leur soit personnel. Donc dans le jeu de Louis, on cause musique, on oublie les chiffres de l'industrie, qui dans notre secteur sont très importants. On essaie d'en savoir plus, mais sans la référence à certains stéréotypes. Voilà. Donc on va parler beaucoup de parcours humains, des histoires dans lesquelles la musique est impliquée. On va aussi parler du rapport à la musique, aux technologies. On ouvre en fait des perspectives, à la fois dans le temps et dans l'espace. Voilà. On essaie de poser les bases d'une compréhension, d'une appropriation, mais sans qu'il y ait obligation d'aimer. Voilà. Et... on va parler histoire de l'art, en fait, tout simplement, sur une matière qui n'est pas souvent invitée à y participer, à cette histoire de l'art. Et donc, on va parler d'une manière simple et décomplexée. On va enlever le jargon des initiés. On va effectivement parler d'un art et de la relation que les humains, qu'ils soient artistes ou publics, entretiennent avec cet art. Et c'est un art qui va englober des musiques, soit toutes les formes musicales, sans que nous permettions d'avoir une hiérarchisation par rapport à ces musiques-là. Donc, comme dans toutes les actions de notre projet, la finalité, c'est en fait la prise de liberté et l'autonomie des publics dans leur rapport à la musique. Et l'objectif va être pour nous la maîtrise de leur jugement et l'exercice de leur esprit critique. Voilà. En d'autres termes, en fait, on travaille les compétences des publics. Donc, la première action, c'est la conférence concert du jeu de Louis. C'est une proposition gratuite à l'intention du grand public, du public scolaire, et dans ces cas-là, dans une version un peu différente. Nous démarrons par une conférence d'une heure, suivie d'un concert d'une heure également. La conférence va poser une thématique que le concert va en fait illustrer, et la thématique est aussi une porte pour en fait écouter et voir le concert différemment. En fait, on articule une approche sensible avec une approche intellectuelle. C'est en fait un accompagnement de l'expérience esthétique. Bon, esthétique au sens étymologique quand même. Donc, à l'entrée de la salle, on remet un dossier, voilà, à toute personne qui rentre dans la salle. Voilà, il comprend le texte de la conférence, des repérages discographiques, bibliographiques, Internet, et aussi la connexion entre le groupe et la thématique. Et dans le cadre des trans, on choisit un groupe souvent venu de très loin, voilà, Chine, etc., patati patata, et on définit la thématique en fonction du groupe. À l'inverse, pendant la saison, on choisit d'abord la thématique et on choisit le groupe en local après. Donc en 12 années, depuis 2004, on a travaillé 54 thématiques différentes et 75 conférences-concerts ont été données. L'autre action s'appelle l'Explorateur. Donc l'Explorateur, c'est un livret en diffusion gratuite, 3000 exemplaires. Tout ça, c'est téléchargeable sur Internet, lejeudelui.com, voilà, gratuitement. Et en fait, c'est, je dirais, il est entièrement consacré à l'artistique du festival. Il est conçu en fait comme un guide de voyage dans la programmation. Et il va renfermer toutes les informations nécessaires au repérage des artistes de la programmation. Donc, on va enlever tout discours de cette proposition-là, que des données factuelles, voilà. Et on va également enlever dans les présentations tout jugement de valeur émis par l'auteur. Une fois de plus, le lecteur doit trouver son chemin selon son gré, en fait. Et il doit s'orienter à partir des données proposées. Donc, il y a 5 parties. Une introduction avec le mode d'emploi, une présentation générale des grandes tendances, les données où tous les artistes sont présentés par ordre alphabétique avec les mêmes entrées. Voilà. Il va y avoir une discographie. Donc, chez nous, elle va être, physique et numérique de chaque artiste. On espère exhaustive. Et il va y avoir également une cartographie qui va positionner, les artistes, tous les artistes de la programmation, sur une constellation esthétique à partir des très grandes familles musicales. Voilà. Et donc, l'idée est que les personnes puissent se faire une première idée de ces groupes qui généralement sont inconnus. Donc la discographie vient préciser où en est le groupe en termes de production. Et la cartographie, c'est en fait une table d'orientation pour que les publics puissent projeter le chemin qu'ils vont faire dans le festival. Et la cartographie est aussi exposée en grand format dans le hall 5 du Parc Expo, qui est notre plus grand lieu. Voilà. Et depuis 2010, on présente en fait des séances publiques de ce travail, avec là pour le coup la présentation des critères qui ont prévalu au positionnement des artistes sur la cartographie. Et en fait, chaque présentation du jeu de Louis a un contexte différent. Voilà. Et donc j'approche de mon temps, n'est-ce pas? Donc pour conclure.
Non, ça va.
Ah, ça va, pas mal. Ah, oui, non, mais j'ai calibré. Donc, mais je vais quand même conclure en vous racontant une anecdote. Et en fait, c'est parce que pour moi, c'est une jolie métaphore du travail d'éducation et de ses incidences. Et elle va faire le lien avec ce que Philippe disait tout à l'heure. Donc, nous faisons les conférences de concert pendant les trans au Champ Libre, donc qui est un établissement public dont le projet culturel est autour de la connaissance. Et donc, les conférences concerts sont aussi très suivies par les habitués des Champs Libres. Et on a un public très divers. Et un jour, après une conférence-concert sur les musiques électroniques, une vieille dame est venue nous remercier en nous disant qu'elle allait enfin pouvoir parler avec son petit-fils de la passion qu'il avait pour les musiques électroniques et auquel, jusqu'à présent, elle ne comprenait rien, car, a-t-elle précisé, elle ne savait pas les écouter. Et voilà. Et donc, c'est effectivement une anecdote qui nous fait plaisir. Voilà.
Vive les grands-mères, et je parle en connaissance de cause. Je vais bientôt aller au Transmusical de Rennes pour pouvoir mieux écouter les musiques électroniques. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Ben, je donne la parole à Gérard Camille. Alors, je disais, mais sans du tout faire un jeu d'esprit, qu'à Avignon, il se passait des choses intéressantes toute l'année, et pas seulement pendant le festival. J'imagine que c'est la même chose à Cannes et voilà. Que vous avez exactement le même genre de problématique.
Et on a le même genre
et de vous avez du mal à vous faire croire quand vous dites oui, à Cannes, toute l'année, c'est plus intéressant que pendant le festival.
Voilà. En tout cas, pédagogiquement, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant, je pense. Mais c'est vrai que l'association Cannes Cinéma est une association qui n'a pas d'adhérents, puisqu'en fait, elle travaille pour tout le monde. Elle est largement financée, subventionnée par la mairie, avec des subventions connexes qui sont le conseil régional, le conseil général, la DRAC, pour des événements ponctuels, et puis bien sûr des partenaires privés. Cette association est en fait l'opérateur de la ville pour le cinéma toute l'année. On travaille donc bien sûr avec le Festival de Cannes, avec Thierry Frémaux et toute son équipe continuellement, enfin en tout cas du mois de février au mois de à fin mai, pour préparer un certain nombre d'activités, puisque c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler en premier du Festival de Cannes, mais comme je le disais, d'un point de vue pédagogique, c'est pas forcément le plus, pour nous en tout cas, l'association Cannes Cinéma, le plus intéressant. Bien sûr, on y fait des choses avec le rectorat, avec Laurence Paty en particulier, qui est derrière Monsieur le Recteur, et qui, voilà, c'est une action qu'on appelle Cinécole. Cette action, c'est à peu près 300 professeurs qui viennent pendant un marathon cinématographique de 48 heures, hein, presque pratiquement. Ils voient entre 12 et 13 films. Et ils rencontrent, quand cela est possible, des acteurs de ces films, enfin des acteurs, des réalisateurs ou des personnes de ces films, des critiques aussi. Et puis voilà, ils repartiront la tête chargée de films, et puis peut-être les exploiteront-ils plus tard. Pour notre part, au niveau de Cannes Cinéma, c'est toute l'année, en effet, comme vous le disiez, alors qu'on travaille toute l'année sur le cinéma, et en particulier, bien sûr pour tous les publics, mais en particulier pour un public de jeunes, des écoles, de la maternelle jusqu'au post-bac. De la maternelle à l'école, on a un dispositif qui n'est pas le dispositif école et cinéma, mais qui est un dispositif que nous avons créé, comme à Nice d'ailleurs, qui s'appelle Film École. À Nice, c'est Odile Chapelle et la Cinémathèque qui l'a créé. Nous, c'est donc là, dans ce cas-là, c'est nous. Et on a quand même à peu près 10 000 enfants qui vont au cinéma avec des choix de films qui sont faits avec les professeurs des écoles, des interventions de personnes qui viennent leur parler du cinéma aussi et qui leur montrent. Et on montre des films, donc je vous dis, de la maternelle au CM2. Ensuite, il y a aussi un travail qui est fait pour les collégiens, là, toute l'année. C'est-à-dire des collégiens peuvent nous demander, des professeurs ou des collèges peuvent nous demander, ils ont envie d'une activité cinéma ou d'une activité de réalisation ou autre, et on est là en tant que partenaire et prestataire. Bien sûr, il y a l'écran junior, qui est une section que nous avons créée pendant le Festival de Cannes, qui comprend 8 films inédits et qui permet à une classe de collégiens d'être jury de ces 8 films avec leur professeur qui est avec eux toute l'année. C'est une option cinéma d'un collège de Cannes. Il y a plus de 2000 élèves qui viennent voir les films et cette classe donc joue le rôle de juré. Et ce écran junior est tellement apprécié aujourd'hui par des professeurs qui viennent un peu comme ils... qui viennent voir ce qui se passe, qu'il est déjà repris la semaine d'après à Grenoble et qu'on a déjà 3 ou 4 autres villes qui nous demandent de pouvoir faire cette manifestation après le festival. Donc, parce que ça touche vraiment les élèves. Les films que l'on propose sont des films qui ne sont pas des films d'enfants, justement, ou des films en direction des collégiens, véritablement. Ce sont des films qui nous paraissent très intéressants parce qu'ils apportent, justement, quelque chose par rapport à la réflexion sur la citoyenneté, sur la démocratie, sur l'être, sur eux. Et on essaye de présenter des films qui sont de tous les pays, surtout, à la fois dans tous ces États, du cinéma dans tous ces États, et aussi cinéma dans tous ces pays. Donc, on a bien sûr un autre gros moment de rencontres. C'est les rencontres cinématographiques de Cannes qui ont lieu en décembre. Et ces rencontres cinématographiques de Cannes, c'est entre 400, suivant les années, entre 400 et 500 jeunes lycéens qui viennent en stage pendant 3 jours. Donc, dans le cadre de ces rencontres qui sont bien sûr une manifestation cinématographique ouverte à tous. Mais alors, au départ, ce n'était que des stages qu'on appelait des stages « Moi, jeune critique ». Tous les critiques de France, pratiquement, sont venus dans cette manifestation. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Je vous dis, Samuel Blumenfeld à Christophe Carrière, en passant par Eric Libiot et bien d'autres, et même Frédéric Bonneau, qui est maintenant directeur de la Cinémathèque française. Donc ils sont tous venus. Et chaque année, on s'aperçoit de quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, ils en apprennent aussi beaucoup auprès des élèves, parce qu'ils sortent de leurs critiques souvent un peu intellectuelles, un peu réflexives, un peu, et ils se trouvent face à un public qui n'a pas du tout la même approche qu'eux du cinéma. Et ils reviennent au bout de 3 jours, eux aussi, je dirais, un petit peu formés. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois donné des idées, fait réfléchir, avoir, eu avoir permis un aspect très réflexif autour du cinéma à ces élèves, mais en même temps, eux-mêmes, je pense, repartent avec d'autres idées sur le public aussi. Aujourd'hui, on a développé d'autres stages scénario, stages techniques, plus techniques ou autres, et des masterclass que l'on fait là toute l'année avec des cinéastes ou des techniciens qu'on invite. En particulier dans un auditorium qui est l'auditorium du lycée Carnot à Cannes, et dans lequel donc on peut recevoir 150 étudiants. C'est aussi ouvert à tout le monde, mais en général c'est souvent les étudiants. Donc post-bac, là on est dans le post-bac, BTS, classe prépa cinéma et IUT de journalistes qui viennent donc pendant 2 heures ou 3 heures rencontrer un cinéaste. Là aussi, énormément de cinéastes français sont passés dans ces masterclass. Voilà. Pour les professeurs, on a mis en place il y a quelques années avec le rectorat. Tout cela se fait aussi en grand partenariat avec le rectorat, il faut le savoir. Et ça, c'est intéressant, vraiment, parce que ça permet, en particulier pour les rencontres cinématographiques de Cannes, d'avoir des collèges, des lycées qui acceptent de jouer le jeu parce que le partenariat avec le rectorat existe. Les mercredis de l'image, donc, qui sont des conférences qui sont données en direction des professeurs pour une formation cinéma, là aussi, ouvert tous azimuts sur des sujets les plus divers possibles. Voilà. Et puis, dernier élément qui prend de l'importance aujourd'hui, c'est on en fait un dans l'année, mais on va essayer d'en faire un peu plus, c'est 3 jours avec un réalisateur. 3 jours avec un réalisateur, c'est toute la journée et toutes les soirées. Donc les soirées, c'est en effet plutôt avec le grand public, mais toute la journée, c'est avec des classes qui viennent voir des films et rencontrer les cinéastes. Je vous dis, là, on en est à peu près une quinzaine, de Jean Becker à Bertrand Tavernier, en passant par Emmanuel Mouret et bien d'autres. Donc voilà, ils acceptent de venir 3 jours. Le prochain qui passera au mois de septembre, c'est Philippe Leguet. Voilà. Donc, on continue. Bon, tout n'est pas parfait dans ce type de fonctionnement. On aura envie que plus de classes participent, que plus d'établissements scolaires acceptent de jouer le jeu, de sortir et de venir dans ces classes. On travaille quelquefois toujours un peu avec les mêmes collèges et les mêmes lycées qui sont très intéressés, qui donc, à partir de là, jouent le jeu et continuent. On aimerait ouvrir, c'est ce qu'on essaye de faire avec le rectorat, avec notre personnel, parce qu'on a quatre personnes donc qui sont salariées à Cannes Cinéma, et voilà, avec tout ce personnel, on essaye de développer et d'aller, et puis de chercher toujours de nouvelles aventures cinématographiques.
Ben, merci beaucoup, merci Gérard, et merci beaucoup.